Le Max Sport avec Loïc Colombier.
Et bonjour, chers amis sportifs, bienvenue à l'antenne de Radio Albigès pour votre Max Sport du 5 février 2019. Alors aujourd'hui, vous retrouverez au menu de votre Max Sport de l'athlétisme avec l'éclat qui a été titré via Célia Perron, championne de France de pentathlon. Une très très bonne nouvelle pour l'athlétisme en albigeois, un sport rempli de vitalité. Dans le registre des bonnes nouvelles, aujourd'hui on a un paquet puisque on reviendra aussi brièvement sur la première sélection en équipe de France U18 de la jeune pousse SBT football de l'albigeois, Marjorie Delonca, une fierté pour le club rouge et jaune, fer de lance de la formation tarnaise, surtout en termes de football féminin. Nous retrouverons aussi Nicolas Portillo pour l'indémodable maintenant chronique footpi qui reviendra sur l'actualité tarnaise du foot. Mais avant tout cela, on va se pencher tout d'abord, comme à l'accoutumée, sur le rugby et la 16e journée de Fédéral 1. Albi recevait l'Annemezan. C'était le match du rebond pour les albigeois après une défaite à Oloron qui est encore bien ancrée dans les têtes et qui avait mis une chape un peu de sinistrose sur le stadium d'Albi. Donc les albigeois avaient préparé ce match à domicile avec la fermentation et de remettre l'église au centre du village. Et il est peu dire que ce fut loin d'être le cas dans le bourbier du stadium municipal d'Albi où les albigeois ont montré une certaine fébrilité. Alors certes, Arthur Castan et Martin Doan ont franchi un but pour assurer l'essentiel, la victoire 13-6, mais les gars du plateau, comme on les appelle, les joueurs de l'Annemezan, dans leur lutte effrénée et haletante pour le maintien, sont venus chercher au courage et à la bravoure un point de bonus qui pèsera très lourd à l'heure de faire les comptes. Samedi, les montagnards ont donné une leçon d'envie et de bravoure aux albigeois. Et oui, ils étaient bel et bien là, les montagnards, et Albi, qui n'a pas forcé son jeu, a eu un mal fou de se dépêtrer du col, du cal, comme on dit, parce que le col n'est pas en Angleterre. Bon, alors ce cercle amical l'Annemezanais qui a fait sa partie et a réussi un des coups du week-end dans cette poule 2, avec aussi la victoire de Bagnères-Bigorre sur Anglet, le cercle amical l'Annemezanais restera, il restera à jamais cette saison comme le premier club amateur à être venu chercher un point de bonus au stadium. À la mi-temps, déjà, les hommes du plateau n'avaient pas caché leur intention. Écoutons leur capitaine et seconde ligne, Petit Gianni, à notre micro.
Et le capitaine du cercle amical l'Annemezanais à côté, une petite réaction sur cette première mi-temps, c'est une vraie partie de brave là.
Oui, après c'est une partie de combat, on le savait très bien. On joue contre le vent, donc pour l'instant ça sort bien à 8-0 et on verra en seconde mi-temps avec l'appui du vent, mais pour l'instant en première mi-temps il n'y a rien à redire et on arrive à retenir les assauts d'Albi. J'espère que ça va durer jusqu'à la 80e.
Allez, c'était la réaction du
capitaine. Allez, encore contre toi.
Et alors quand t'as encore Didier qui était dans le feu d'action pour commenter le match, alors merci Didier Rovella de nous faire vivre les matchs avec sa passion et sa verve. Mais bien sûr, on a écouté le capitaine du CAL, du cercle amical l'Annemezanais, mais on va aussi bien sûr aller voir un de nos jaunes et noirs, Lucas Vacalro, pour avoir son analyse de cette première mi-temps.
Et niveau du match, qu'est-ce que ça me passe cette première mi-temps?
On est devant au score, une première mi-temps compliquée et on a l'appui du vent, donc il va falloir être fort en deuxième mi-temps. Je pense qu'ils vont vouloir nous contenir chez nous et il va falloir continuer dans l'intensité, en mêlée, en conquête et gagner ce match.
Lucas Vacalro, c'est un peu comme François Hollande, c'est le roi de la synthèse. Simple, bref, efficace. Alors, 8-0 à la mi-temps grâce à une pénalité de Caminati qui a été peu en réussite samedi au pied et un essai d'Arthur Castan. Une des rares, on ne va pas s'en cacher, satisfactions de ce match avec aussi Jérôme Dufour qui a été une véritable tour de contrôle de la touche albigeoise. La vache était bien maigre, me direz-vous, mais il était temps d'avoir l'analyse de...
Je suis Big Mustache. J'étais Big Mustache.
Qui a été très fort pour les albigeois, j'imagine que tu vas me dire la touche. Hein.
Ben oui, la touche, elle est groupée et pénétrante, bien qu'on n'a pas scoré, mais ça aurait mérité. Mais ça a donné lieu au carton jaune du capitaine que tu viens d'interviewer. À force de répéter ses fautes, et ça aurait pu peut-être arriver plus tôt. Bon, après, on fait quelques petites scories qui nous empêchent de lancer le jeu. mais c'est bien dommage, quoi. Après, pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a pas de grandes envolées, mais on s'en doutait, vu le temps qu'il fait.
Non, là, la balle, la vie est belle. Tu peux attendre un mois ou deux. Hein.
Ouais, mais bon, ça aurait peut-être pu le faire, je sais pas, à mon avis. On est peut-être manque peut-être de confiance tant que le score n'est pas fait. Et, voilà. Je pense que même tu vois, à un moment donné, il y avait Thomas Lasselle qui a tombé un ballon, on était en position.
C'est pas son habitude de tomber des ballons, Thomas, en plus. Hein.
Ouais, voilà. C'est peut-être c'est vrai qu'avec le froid, les doigts sont un peu engourdis.
Oui, Didier, je suis d'accord avec toi, mais bon, je pense qu'il n'y a pas que le froid qui avait engourdi les doigts. Il y a aussi. Le fait que ce début de saison, on va dire, un peu poussif, un peu à réaction, a sûrement mis, comme on dit dans le jargon rugbystique, la gangrène dans les cerveaux et a mis le Sporting en proie à de sérieux doutes qu'ils ont du mal à se dépêtrer, on va dire, des doutes qui collent un peu comme un sparadrap. Il va falloir que les gars d'Arnaud Mella aillent chercher un match référence pour peut-être, réenclencher la machine à rêver. Car... au retour des vestiaires, les Hauts-Pyrénées, les visiteurs enquillèrent une pénalité, vite répondue du tac au tac par un essai non transformé de Martin Douan. Donc ça portait le score à 13-3. Et tout le public se mettait à espérer que l'SCA finirait sur le gong ou même sur les chapeaux de roue, avec le BO, comprenez, le bonus offensif. Mais que nenni, le Sporting va s'embourber sous les yeux en plus d'anciennes gloires. Le stadium est venu au soutien dans les Rucks et qui ont même failli assister à un essai l'année dernière en contre sur un cafouillage. Heureusement, il y en a eu un avant coupable dès l'année dernière parce qu'on serait revenu à 13-10 et ça aurait pu être chaud pour nos jaunes et noirs. Et donc, Gabi Lacroix et Flo Fourcade étaient donc dans les travées pour venir soutenir leur ancien club, leur club de cœur, des travées désespérément vides du stadium qui font peine à voir en espérant que, comme on a discuté avec Arnaud Mella, que la dynamique avec un ou deux beaux matchs et les phases finales approchantes reprennent de plus belle et que le stadium se remette à vibrer et à rugir de plaisir en voyant du beau rugby. Donc, on va écouter la réaction du second invité de marque, Flo Fourcade, à quelques encablures de la fin de la rencontre.
Du stade, je vais aller lui demander un petit, une petite impression. Florent Fourcade, une impression sur ce match du Sporting là. C'est un vrai match hivernal et il a fallu sortir le bleu chauffe.
Ouais, c'est sûr que Lannemezan joue avec ses armes et c'est un peu compliqué pour Albi de mettre son jeu et surtout d'enchaîner les temps de jeu. Après c'est un match pour construire les échéances dans deux mois, donc il faut s'en servir. Et je pense qu'ils vont bien s'en servir. Après, c'est difficile de jouer avec ces conditions-là, du vent. Il n'y a pas de pluie encore pendant le match, mais je pense que c'est un match où on galère peut-être cet hiver, mais qui nous serviront pour dans les échéances futures.
Ça permet de former l'état d'esprit d'un groupe.
Ouais, c'est sûr. Ça permet de se créer un état d'esprit surtout et de voir que les difficultés connues au mois de janvier-février seront peut-être pas les mêmes connues et seront certainement différentes en termes de volume de jeu, surtout pour les échéances d'avril-mai. Voilà.
Merci Florent. Merci.
Alors que comme Florent Fourcade, on pensait tous que les jaunes et noirs allaient faire craquer les Vaillangas du plateau, le match fut interrompu de longues minutes et ça nous a quand même mis un froid dans le dos suite à la blessure d'Herbin, joueur du cercle amical Lannemezanais, au cervical et à son évacuation sur un centre hospitalier le plus proche. Je vous rassure, le rouge et blanc est de nature robuste et Herbin va mieux mais devra faire des examens complémentaires par précaution. Donc, pendant cette longue interruption du match, quasiment 10 minutes, nous on en a profité pour faire notre tour de l'infirmerie jaune et noir dans notre moment.
Allô maman bobo.
Alors, tout d'abord, on est allé voir Thibaut Bismann qui était sorti aux environs de la 15e minute sur une vélienne blessure à la cheville. Une blessure qui a mis un peu dans la panne Arnaud Mella puisqu'il n'avait plus de 10 pour de rechanger, pour intervertir avec Kevin Boulogne, mis à part Ben Caminati. Mais Ben Caminati, actuellement, il a l'air, aux yeux du staff albigeois, bien ancré à l'arrière. Écoutons Thibaut Bismann.
jusqu'au bout.
On voit Thibaut, on va lui demander quelques nouvelles. Bon alors Thibaut, qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est la cheville qui a tourné?
Ouais, c'est la cheville quoi, une entorse comme d'hab. Bon, après j'ai plus trop de ligaments de ce côté, donc ça risque de pas être trop long quoi, mais c'est juste chiant sur le moment.
Bon, tu l'as vu là, encore un match un peu casse-pied d'hiver hein, où il faut sortir le bleu de chauffe avec des lendemains années, des Pyrénéens, encore le couteau entre les dents.
Oui, c'est sûr. Après, on a fait énormément encore de fautes de main, donc j'aimerais vraiment qu'on règle ça sur les semaines à venir. Et dès qu'on voit qu'on met un peu de vitesse, quoi, on joue notre rugby. Donc ce serait bien qu'on prenne vraiment conscience de ça, qu'on se concentre vraiment sur les mains. Après, ce soir, l'essentiel, c'était de se remettre la traite à l'endroit avec une victoire. Quoi.
Donc, on a écouté le demi de mêlée albigeois qui avait des paroles assez rassurantes sur la suite de sa blessure. On espère qu'il va vite revenir sur les prix parce que Arnaud Mella et les joueurs d'Albi ont besoin de toutes leurs ressources. Et Thibaut n'est pas des moindres ressources. Allez, maintenant, on va prendre aussi des nouvelles de Romain Casals, blessé depuis avant la trêve des confiseurs, depuis le dernier match face à Tarbes. Allons aux nouvelles de Romain Casals.
On va voir par rapport aux sensations, j'espère le plus vite possible.
Bon, ça a le mérite d'être clair, hein. C'est un peu flou, mais il lui tarde de revenir gambader sur le prêt. Alors, région blessure, il y a eu son lot côté albigeois, puisque en plus de Thibaut Bismond dans le match, Gaëtan Bertrand a pris un KO, il a dû sortir assez rapidement. Bon, a priori, on a pris des nouvelles, ça a l'air d'aller mieux, et puis il est habitué, le taureau du Périgord, comme on aime à l'appeler au Maxport, il est habitué à prendre certains gros tampons, mais bon, il faut toujours quand même faire cas à ce genre de petits KO, de petites commotions, parce qu'il peut y avoir des suites non négligeables. Donc le staff a préféré le sortir. Pareil pour Simon Pardacti, qui est sorti du match avec un gros œuf sur la tête. Il fait partie de ces joueurs qui se sont donnés, sont allés au charbon dans ce match où il y avait un peu que ça à donner, aller à la ferraille, parce que les grandes envolées, si on en a vu une du match, encore, c'est être généreux et gentil. Donc, c'était vraiment le match typique hivernal où on a enchaîné les pick and go, où ça a beaucoup joué sur le paquet de devant, sur la conquête. Mais les lignes arrière, le pauvre petit Thomas Lasselle, je pense qu'il doit être triste parce qu'il n'a pas eu grand chaos, comme on dit dans le sud-ouest, de ballon à jouer et à toucher. Et puis, en plus, souvent dans ces matchs comme ça, quand on est un peu froid, ça arrive de faire des fautes de main, donc bon, c'est pas les matchs les plus idéaux pour les lignes arrière. Mais après l'interruption du jeu, suite à l'évacuation du seconde ligne remplaçant du cercle amical Annemasse, Zanet, le jeu a bien sûr repris enfin, dirons-nous, mais avec des albigeois, un brin absent, qui firent une énième faute de main et qui, au bout du bout, amenèrent la possibilité à l'Annemasse d'arracher le bonus par la botte de Christophe Dasque. Ben, ce dernier, déjà très doué au pied, ne se fit pas prier, et le match termina avec un 13-6 sous une bronca. Ben non, car les à peine 500 spectateurs, alors que nombre d'autres stades ont passé les 2500 spectateurs en Fédéral 1, n'auraient pas su se faire entendre. Sur le terrain, les joueurs du CAL exultaient, leur président était à l'unisson, écoutons-le.
J'ai le président de l'Annemasse à côté de moi, enfin le co-président et monsieur Jean-Philippe Dastugue, Bernard Duclos, bonjour, merci d'être entre micro. Donc vous étiez venu pour faire un cours, amener un point pour vous, mission accomplie.
Ouais, tout à fait, c'est une grande joie pour nous parce que je trouve que bon, les joueurs quand même si on a souffert sur les molles pénétrants et sur certaines mêlées, mais bon, ils ont, voilà, comme je vous avais dit hier, un cœur énorme, et on ramène ce point qui, j'espère, va nous faire du bien comptablement, et puis va nous donner quand même vraiment du baume au cœur pour les autres rencontres à venir et pour le maintien.
Bon, vous avez vu, Albi, on vous a mis dans de bonnes dispositions. Sur le plateau, il y a souvent un froid glacial. On va dire, on va faire un copier-coller, au moins, ils ne seront pas dépaysés.
Tout à fait. Je crois que j'ai même plus froid à Albi qu'à l'Annemasse ce matin. Mais voilà. Mais on était. Ça nous a permis de se réchauffer. Et puis voilà. Non, c'est super pour nous. Et bon, voilà. Et bon vent à Albi parce que bon, maintenant, je pense qu'il faut qu'il prépare au mieux ses quarts de finale. Bon, c'est vrai que c'est c'est des matchs pas faciles à jouer, mais bon, je souhaite beaucoup de choses à Albi et j'espère que la fin de saison sera à la hauteur de leur ambition.
Et ce petit point, on dit souvent que c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, ce petit point, il récupère au stadium, il peut compter double à la fin de la saison.
Ouais, tout à fait, ce que je vous avais dit hier, tous les points vont compter, bon, et celui-là, je pense qu'il compte double, bon, venir chercher un point de bonus défensif à Albi, c'était quand même, c'est énorme.
Vous êtes les premiers.
On est les premiers, bon, mais j'espère que ça nous portera chance pour la fin de la saison.
C'est tout le mal que vous souhaitez, merci Président.
Merci.
Une joie est légitime, des hommes du plateau, ils sont allés le chercher au bout du suspense, ce point de bonus, et il était bien normal qu'ils fêtent ça dignement. Pour Simon Pardakti, le généreux et vaillant troisième ligne du Sporting Club albigeois, l'analyse était beaucoup plus mitigée. Écoutons le solaire alémano chilien.
Ça a été un match d'homme comme tu les aimes, dans la boue, mais il y a quelques motifs encore d'insatisfaction.
Oh, on n'est pas du tout très satisfait. Hein. Mais franchement, moi, dans ma partie, bon match, mec. Et moi, j'étais très surpris de cette belle équipe de la maison. Franchement, ils nous ont proposé un bel combat, un bon match. Et nous, on est à la tête trop dans les phases finales encore une fois. Mais bon, on est en équipe des phases finales et on va les montrer après. Ferme et mesure, là, on se continue à se préparer, on continue à prendre des points. Et voilà. Dommage qu'on n'a pas pris les points bonus, mais on a gagné et voilà.
Et puis maintenant, toutes les équipes vont venir avec le couteau entre les dents. Elles ont vu que pour l'instant, Albi est un peu dans le doute, donc ils essayent de nous enfoncer la tête sous l'eau, on va dire.
Oui, c'est vrai. On les donnait un peu la porte. On a montré que la porte est un peu ouverte et les équipes ils sont pas bêtes, ils prennent les opportunités. Du coup, c'est maintenant à se mettre sérieux, humble, à travailler encore plus. Et c'est bien. Ça nous fait mettre les pieds encore un peu plus sur terre et travailler encore plus.
Et puis ces matchs hivernaux là, il faut aller se les peler. Un degré, un temps humide, sec, il fait froid. Franchement, il faut être des braves pour aller sur le terrain.
Ouais, ça fait plaisir un peu quand même. Ça change un peu, pas trop de soleil. Moi, j'adore ça. Du coup, franchement. Moi ça me va, mais après c'est les temps, c'est pour les deux équipes. Du coup, l'arbitrage c'est pour les deux équipes, les temps pour les deux équipes. Du coup, là on a gagné encore et je pense que ça va être une long hiver. Du coup, et on se prépare.
Merci Simon.
Merci à toi.
Et comme vous avez pu l'entendre, malgré la déception d'une victoire, petit bras on va dire, l'alémano-chilien Simon Pardakti arrive à en trouver du positif et même le froid ne lui fait pas peur à lui. Parce que pour dire, en tribune de presse, on était quelques-uns à être frigorifiés. On s'est dit que ces joueurs, c'était quand même des braves d'aller au mastic sur le terrain par un temps aussi montagnard. Parce qu'il y avait la bise, il y avait les 1 degré, il y avait le terrain humide. Il y avait tout pour que ça ne soit pas un grand match rugby. Et les joueurs ont quand même su se dépenser et mettre un brin le bleu de chauffe. Après, il n'y avait pas beaucoup d'autres choses à retenir de ce match. Car en conférence presse, on l'a vu, ceux qui avaient le sourire, c'était du côté de l'Annemezan. Et l'entraîneur des arrières, Mr. Schneider, ne cachait pas sa joie. Et il a bien raison. Et a bien sûr félicité la bravoure de ces gars.
Et effectivement, on est très heureux ce soir parce que voilà, toutes les équipes qui viennent à Albi, eh bien, on peut devenir ici. Et nous, on y a cru. Toute la semaine, on a bossé pour ça. Donc ouais, on est très très heureux parce que les consignes ont été appliquées et puis l'état d'esprit aussi était là. Donc on est très très heureux de prendre un point parce que c'est très important pour nous, notamment sur le maintien qui va être encore long et dur.
Ouais, comme vous avez entendu, le maintien sera encore long et dur pour l'Annemezan. Mais samedi, ils ont pris un point qui peut être précieux et compter double, comme le disait le président Duclos, hein, à l'heure de faire les comptes parce que Nafarroa a perdu 39-9. À Tyros. Donc l'Annemezan grappille de nouveau un petit point de plus sur les Nafartars et des concurrents au maintien. Et ça peut être des fois le point qui fait la différence. Après, bon, on le sait, les Nafartars, les Bagnères et toutes ces équipes comme Laurent qui jouent pour le maintien sont des équipes pyrénéennes avec un ADN de combattants. Et je pense que jusqu'à la dernière seconde, s'il reste un espoir, ils le joueront jusqu'au bout. Par contre, côté Albigeois, en conférence de presse, c'était pas du tout le même sentiment. Hein. Mathieu André, un bon capitaine, est venu se rompre à l'exercice de la conférence de presse. Alors, c'est pas agréable pour un joueur quand on a fait une mauvaise prestation. Hein. En conférence de presse, on se retrouve avec toute la presse locale écrite, radiophonique, voire même des fois télé pour les grands matchs autour de soi. Et puis bon, quand il y a les questions qui fusent souvent, c'est assez déplaisant. Et donc Mathieu André a eu le courage de venir affronter la presse et il a laissé transparaître certes une certaine inquiétude, pas d'alarmisme, mais surtout une frustration palpable de voir son équipe déjouer.
Vous savez qu'on allait avoir une équipe de Lannemezan très compliquée à manœuvrer, des conditions compliquées, du vent, de la pluie, on s'attendait à ça, et bien on l'a eu, surtout que nous, en ce moment, c'est un peu compliqué, on est sur un mois de janvier très difficile pour nous, les résultats ne sont pas là, donc il fallait qu'on se rassure suite au match de Laurent, j'ai envie de dire que seule la victoire compte, hein. Après... On s'appuyait sur une bonne mêlée, sur une bonne touche, mais dans le jeu, ça reste encore très compliqué parce qu'on a fait beaucoup de fautes de main, beaucoup de fautes de discipline et ça nous complique nettement la tâche. Non, c'est je pense qu'une saison, c'est jamais linéaire. Il y a des hauts et des bas et bien en ce moment, on est dans un bas. Donc on essaye de faire le dos rond, de continuer à travailler, à bien travailler, à s'appuyer sur nos points forts et puis voilà, on attend les jours meilleurs. C'est sûr qu'ils vont venir, mais pour l'instant, voilà, faut faire le dos rond. Non, mais bien sûr, on va tenir compte de nos deux dernières défaites à l'extérieur qui nous embêtent vraiment et qu'on traîne comme un boulet. Pour nos Bagnères, ça va être un gros rendez-vous parce que ça fait moins qu'on n'a pas été dominateur à l'extérieur. Donc on va profiter de ce repos pour bien se préparer et aller faire un coup Bagnères. Non, on va rien laisser passer du tout. Nous, si on peut retrouver notre forme de jeu le plus rapidement possible, ça sera bien. On va pas laisser passer le temps. On va utiliser toutes les minutes qu'on a pour travailler et bien finir cette saison. Le prochain rendez-vous, le prochain gros rendez-vous, c'est à Bagnères. Et on va profiter de ces 15 jours pour travailler au maximum, que ce soit physiquement et techniquement, pour aller faire un bon match à Bagnères.
Sur des questions, on a vu que côté Albigeois, on tombait beaucoup de ballons. Alors certes, le ballon aujourd'hui était trempé, mais c'était pour les deux équipes. On a vu que côté Albi, c'est quand même un mal qui a été récurrent tout au long du match. Quand tu expliques que c'est plutôt technique ou c'est un peu psychologique, il y a aussi la gamberge, ces deux défaites à l'extérieur.
Non, mais c'est ce que je dis tout à l'heure, c'est que dans la saison, il y a des hauts, il y a des bas, on est dans un bas, donc on manque cette confiance, donc ça nous fait tomber des ballons, ça nous fait faire des fautes inutiles, donc la discipline n'est pas au rendez-vous non plus, et tout ça fait qu'on ne fait pas de bonnes prestations en ce moment, donc tous les jours on travaille sur ça, pour l'instant ça ne vient pas, il va falloir que ça vienne.
Ces équipes pyrénéennes, elles ont quelque chose d'un peu béchusien, avec pas grand-chose, elles font beaucoup quand même. Ils sont admirables.
Oui, bien sûr, bien sûr, ils sont tous admirables. Toutes les équipes qu'on rencontre, avec les moyens qu'ils ont, font beaucoup de choses. Ça serait bien aussi que peut-être nous, on prenne exemple sur ces équipes-là.
Merci Mathieu.
Avec plaisir.
Des paroles fortes de Mathieu André, un des joueurs cadres, si ce n'est le joueur cadre du Sporting Club Joie, car... Capitaine, c'est le porte-parole, le relais d'Arnaud Mella dans le vestiaire. C'est un des papas du vestiaire. Et on sentait que Mathieu était vraiment pas satisfait de la prestation de ses gars. Et que je pense que dans les deux semaines de prépa pour ce déplacement dans le chaudron de Bagnères, il va y avoir encore des recadrages ou des échanges entre personnes qui se comprennent, c'est-à-dire les joueurs, pour tendre à retrouver le niveau qui devait être et qui devrait être celui du Sporting Club Albigeois. Pour clôturer ce tour d'horizon d'un match qui aura vu, malgré la victoire, le Sporting être en croix, plutôt en proie à de grands doutes, éprouver l'adage que le premier adversaire du SCA, c'est le SCA. Lui-même. On va donc laisser la parole à Didier qui est allé interviewer un des jeunes qui monte au SCA, Simon Vérac, dans notre interview.
aujourd'hui, 4 février 2019, on vient à la rencontre de Simon Vérac, espoir du SCA, troisième lignel en priorité. Bonjour Simon.
Bonjour.
On va revenir sur le match de samedi contre l'Annemezan. Comment tu as vécu ce match? Et bon, tu es rentré une poignée de minutes, c'était tactique. Comment ça s'est passé?
Ben déjà, il y a eu la victoire, c'est le principal. Après, il y a eu deux blessés derrière. Du coup, c'était un peu compliqué pour que je rentre. Donc, voilà quoi, c'était.
Ouais, on va dire que c'était plutôt tactique par rapport aux blessés. Il fallait attendre vraiment le dernier carré pour au cas qu'il y ait une dernière blessure en fin de match.
C'est ça, tout à fait.
Alors cette année 2019 ne débute pas sous le meilleur auspice, mis à part la victoire face à Valais-Agen. Tes deux essais d'ailleurs. Quel est le mal à Bijou actuellement? Physique, moral
Non, Nafarro, c'était compliqué. Ça s'est fait prendre. Enfin, on a été surpris. Après. Valoron, pareil, et c'est compliqué de jouer là-bas et tout. Donc,
ouais, c'est les terrains gras qui vous ont pas avantagé, vous n'avez pas trop l'habitude.
Je sais pas, mais là déjà, ce week-end, déjà, c'était, on a gagné sur un terrain un peu compliqué, donc ça mettra un peu en confiance sur ça, et il faut gagner ce type de match. Quoi.
Voilà. Alors tu jongles un peu avec les espoirs, la une. D'ailleurs, on peut souligner les 3 victoires consécutives, dont 2 à l'extérieur de ces jeunes-là, notamment Massy et Roval, qui n'étaient pas gagnés d'avance. Pour toi, l'avenir, il est là pour le Sporting Club Avijois?
Bien sûr, enfin, il y a un bon centre de formation, il y a de bons éléments. Après, voilà, on a Romain Laillard, il fait du bon boulot. Arnaud, il nous fait confiance. On le voit sur chaque week-end, il y a tout le temps des jeunes qui jouent. Donc, il faut qu'on continue, ça nous doit prouver qu'on a notre place aussi. Et voilà, à nous de travailler et à nous de prouver.
Tu fais partie donc, du centre de formation. Comment se déroule une journée type?
Nous, on s'entraîne, on est greffé avec la première toute la semaine. Après, on a des entraînements CF le lundi soir, le mercredi et aussi le vendredi. Donc, ce qui nous permet de travailler notre technique individuelle avec Romain. On a des retours vidéo sur nos matchs chaque semaine, donc c'est bien. Il y a un très bon retour entre le staff et nous, donc c'est bien.
Dimanche 17 février, suivant, la une va à Bagnères de Bigorre, les espoirs à Carcassonne. Où seras-tu? Et au-delà, espères-tu intégrer le groupe de la une pour les phases finales?
Moi je sais pas, ça faut demander à Arnaud, mais après bien sûr j'aimerais intégrer l'équipe première, parce que voilà, il y a un beau truc à faire. Si elle a monté au bout, ce sera magnifique. Donc voilà quoi. Il y a un beau truc à faire.
Oui, tu vas prendre exemple sur ton copain Paul Faré. Quand
même. Ouais, voilà un peu. Ouais.
Ouais. Ouais, je te remercie pour aujourd'hui.
Merci à toi.
Eh bien, ça faisait plaisir d'avoir Simon Vérac à froid deux jours après cette victoire face au cercle amical à nos années 13 à 6. Donc Simon Vérac. C'est le petit jeune qui monte et il se posait la question encore s'il ferait phase finale, c'est pas. Moi je crois à ces étoiles montantes et je me dis que le destin lui donnera sûrement la chance au moins de grappiller des minutes pendant ses phases finales et c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Allez, pour finir ce tour d'horizon de la Fédérale 1, on va faire une petite breaking news sur les résultats dans la poule d'Albi, la poule 2 et les autres poules. Donc, on va commencer par la poule 1 où il y avait 2 matchs qui nous intéressaient grandement, voire 3. Le SAT, le SA Trélissacois, qui recevait le Stade Nantais dans un duel entre 4e et entre probable prétendant à la qualif pour les matchs d'accession en Pro D2. Et bien, le SAT a vaincu 35-28 le Stade Nantais qui repart avec un bonus défensif. Et le SAT repasse devant le Stade Nantais. On voit que nos amis. Du stade commence à patiner dans la semoule depuis ce mois de janvier, depuis l'annonce qui a été faite par la DNCG d'une probable sanction et de petits soucis administratifs. Nos amis aussi du Rouen Normandie Rugby, ils ont fait la belle et la grosse opération de ce week-end en se défaisant non sans mal mais largement 33-9 de l'US Dask, son dauphin et l'équipe. Une des deux équipes à Narbonne qui descendait de Pro D2. Autre match en poule 1, la surprise, Bergerac à la maison qui fait tomber l'Union Cognac-Saint-Jean-d'Angély, qui pouvait aller avec la défaite d'Ax à Rouen chercher la seconde place. Ils ne ramèneront que le point de bonus de Bergerac et reviennent à un point de Dax avec 51 points et Dax 52, tandis que Rouen caracole en tête avec 71 points. Dans la poule d'Albi, bon, déjà il y avait deux matchs reportés, Saint-Jean-de-Luz, FC Oloron et l'ASV Lavaur face à l'avenir valencien. Ces matchs se dérouleront très prochainement. Pour Lavaur, on sait qu'ils se dérouleront le week-end prochain, le 10 février 2019. Par contre, pour les matchs qui se jouaient, il y a eu le fameux US Tyros Nafarroa, dont je vous disais la victoire des Tyrosais 39-9. Il y a eu une Union Sportive Marmandaise, Stadio Terapien Rugby, qui a fait aussi couler de l'encre, puisque le Stadio a dit, je pense, définitivement au revoir à la seconde place et à la qualification en phase d'accession, puisqu'ils ont perdu 23-21 en terre marmandaise. Et pour finir, on va finir par le clin d'œil à nos amis et futurs adversaires du Stade Bagnéret, qui sont allés faire tomber la citadelle Saint-Jean, comprenez le stade du Anglet Olympique, invaincu jusqu'à présent. Les Albigeois, les Tarbés, les Vauréens s'étaient cassés les dents. Et bien le Stade Bagnéret a réussi à faire tomber le fief anglois en s'imposant 18-11. Dans les autres poules, il y avait un derby d'Occitanie entre Narbonne et le rugby club du Gard. Le rugby club Nîmois, eh bien, les Nîmois y ont cru très longtemps puisqu'ils menaient 18-10 à 10 minutes de la fin. Mais Narbonne, les grandes équipes, on va dire, ne meurent jamais et a su se ressaisir et s'est imposé au stade de l'amitié et des sports 21-18. Roval a complètement étrié Grouillet 69-0 et commence à mettre un pied, voire deux pieds au Grouilletois en fédéral 2, tandis que Roval finira à coup sûr, quasiment mathématiquement premier de sa poule, et Blagnac, dans le match entre le Dauphin et le troisième, s'est dépêtré de nos amis d'Aubenas, une des vieilles connaissances de l'année dernière, la Fédération Élite, qui n'a pas réussi à faire douter un seul instant le Blagnac Sporting Club Rugby, puisque les Blagnacais de Montreuil s'imposent 30-15. Dans les autres poules, le Stade Niçois est allé gagner l'extérieur 22-9. Le Stade Dijonais a gagné 29-10 à l'US Seynoise, tandis que Chambéry de Benjamin Bagat est tombé face à Bourgoin 15-19. Les Chambériens ont cru là aussi avoir la victoire pendant un certain moment, jusqu'à la 65e. Au stade municipal de Chambéry, mais on va dire les faits d'arbitrage ont fait tourner le match et c'est les Bergaliens qui sont imposés au forceps, mais qui sont imposés 19-15. Dans cette poule 4, eh bien, c'est Nice avec Dijon qui sont en tête et juste derrière dans les rétros en train de klaxonner, Bourgoin 3e. Ça va se jouer à pas grand chose ces poules. Maintenant on va aussi passer, on va dire, à un homme qui a été un peu décrié pendant ce match du Sporting, c'est Kevin Boulogne, le revenant, l'ancienne gloire jaune et noire, qui, c'est sûr, a fait un match en deçà, qui a été très, très, très compliqué. Il a eu 3 en avant assez coupables, dont 2 dans les chaussettes, où il a manqué un peu de self-control sur le coup. Alors, beaucoup de supporters l'ont brocardé. Nous, on l'a croisé, il a été très peiné aussi de ce premier match parce qu'il eut tardé de faire son retour au stadium et toute sa famille qui était venue. Mais Kevin a peut-être laissé parler un peu l'affect avant de faire parler la raison, puisqu'on va vous donner quelques éléments. Il était bloqué du dos avant le match, il était sous médicaments et il en était très très fatigué. Pour preuve, on a eu des échos qu'à la causerie, il avait un peu même les yeux qui flanchaient. Donc il a voulu à tout prix commencer ce match et sa famille était venue. On va dire, comme je disais, l'émotion a pris le dessus sur le joueur. Kevin aurait peut-être dû patienter un peu parce que bon, ça a été compliqué pour lui malgré une utilisation de son jeu au pied qui était brillante. Et c'est là où on voit que la vista et la sérénité du 10 albigeois sera précieuse pour les phases finales. Mais bon, le match là a mal tourné pour lui et quand ça veut pas, ça veut pas. Surtout que Arnaud Mella, qui avait prévu de pouvoir l'intervertir avec Thibaut Bismann à l'ouverture, s'est retrouvé dans la panade au bout d'un quart d'heure puisque l'ex-Biterrois, Thibaut Bismann, s'est tordu la cheville. Donc voilà pour cette petite mise au point sur Kevin Boulogne. On a entendu beaucoup de supporters le brocarder, il ne faut pas le jeter de suite aux orties. Je pense que dans quelques matchs, quand il aura repris ses repères, repris ses habitudes, et de nouveau les cannes de 20 ans, il fera un bien fou au Sporting Club albigeois. Allez Kevin, on est tous avec toi. Alors maintenant, on va passer à notre petite breaking news sur les affluences où Albi a vraiment pas brillé. Alors certes, c'est vrai que samedi, on se serait cru...
De la Savoie.
Savoie,
non, ça va pas. Mec, c'est le bonheur, on gèle les grelots. Bordel, les faibles froid dans ton frigo. Un pied dehors direct, c'est la pharyngée. La mort venait, le microbe, tu sachais. Alors écoute, avant qu'il sera trop tard, avant que tout sera tout dur, comme un surgelé picard. On n'est pas venu pour jouer les papa poules. Mais un conseil, mon gars, faut ta cagoule. Faut ta cagoule, faut ta cagoule. Ou t'auras froid, t'auras les crottes, t'auras les boules. T'auras les boules, faut ta cagoule, ouais. Faut ta cagoule. La chute de poule, la nique et tout, faut ta cagoule. Faut ta cagoule, faut ta cagoule. Tu l'as reçu de l'estal, oui, même à besoin. Même à besoin, faut ta cagoule, ouais. Faut ta cagoule. Se faire qu'un pouce, se faire qu'un pouce. Se faire qu'un pouce, se faire qu'un pouce.
Ouais, dis-le. Ouais, c'était un peu ça, c'était un peu en direct de la Savoie ce samedi. Et il fallait peut-être pas des cagoules, mais il fallait des bonnes moufles pour aller au stadium. Alors, certes, c'est vrai, le temps peut expliquer le manque d'affluence au stadium, le manque, on va dire, de soutien des supporters jaunes et noirs envers leurs petits. Mais pas que, je pense que les prestations récentes, plus la dynamique générale depuis deux ou trois saisons... n'aide pas et il y a une fracture avec le peuple jaune et noir, comme j'aime bien l'appeler. Et là, cette fracture a quand même touché le fond du bocal, un peu comme le jeu du Sporting samedi, puisque avec les 500-600 personnes recensées au stadium, et le stadium, pour la première fois de la saison, n'est même pas dans la moyenne générale de la Fédérale 1, puisque les affluences générales en Fédérale 1, moyenne, étaient de 1064 personnes. On est loin du compte, on était deux fois moins ou un peu moins de deux fois moins. Et quand on voit que Chambéry, pour le choc face à Bourgoin, a réussi à ramener 2500 personnes, Valence Roman, pour recevoir le dernier, Grouillet, a ramené 2500 personnes au Stade Pompidou. Le Roi Normandie, pour un choc là aussi, face à Dax, a ramené 2410 personnes. Ou alors l'US Tyros a réussi à ramener dans ce derby basco-landais 1600 personnes. Ça fait mal au cœur de voir le stadium qui n'est même pas dans les 10 premières affluences, puisque Narbonne, Nîmes s'est joué devant 800 personnes, Marmande a reçu le stade Tarbé devant 800 personnes, Trélissac a reçu Nantes devant 800 personnes, Bassargachon avait aussi 800 ouailles dans son stade, Bergerac a reçu Cognac avec 1000 personnes, et le cinquième est Langon qui recevait le Rennes Etienne Club avec 1200 personnes. Donc, je pense que ce soit du côté supporter, du côté dirigeant, du côté joueur, il y a une réflexion à avoir parce que certes il faisait froid, certes le match n'était pas un de ces matchs bankable, mais être tombé à 500 personnes, ça commence à devenir très inquiétant au Sporting. Mais bon, on ne va pas épiloguer là-dessus pendant une heure et on va finir cette partie rugby avec le chant qui a dû faire vibrer tout le plateau de l'Almazan et le Buzet joueur samedi soir.
Ce pays de l'immonde, nous sommes des amis, le rugby nous unit et pour longtemps encore. Je suis de ce pays que j'adore. Ici on est heureux, quand il neige, quand il pleut, on fait ce que l'on veut. Je suis de ce pays et pour longtemps encore.
Et oui, ils sont de ce pays, les gars de l'Almazan, et ils l'ont prouvé de bien belle manière samedi soir au stadium. C'est, on va dire, les petits vainqueurs de ce match, parce qu'ils n'ont pas eu la victoire réellement, mais ce point pour eux était et avait la même saveur qu'une belle victoire. Allez, maintenant, fini le rugby, et on va passer au foot avec la chronique Footpi. Et pour cette chronique Footpi, on va retrouver, comme tous les mardis maintenant, tous les vendredis aussi, Nicolas Portillo. Nicolas, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Bon, Nicolas, qu'est-ce que tu as au menu, on va dire, aujourd'hui, de cette chronique Footpi?
Ben, clairement, je vais vous l'annoncer, c'est un menu quand même vraiment allégé. Autant la semaine dernière, j'étais l'oiseau de mauvais augure, là, je suis vraiment l'oiseau qui cherche des matchs. Parce que quasiment...
Qui cherche les augures, on va dire.
Voilà, voilà, tout à fait. Toutes les équipes tarnaises ont quasiment vu leur match reporté ce week-end, donc on n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Donc on va commencer un peu par les féminines, avec défaite de la réserve de la SPTT Albi, 3 buts à 1 contre la réserve du TFC. Donc la réserve du TFC qui est largement leader, ils ont un match en avance, mais ils ont quand même 6 points d'avance sur la réserve de Rodez. Ce qui pourrait limite faire le jeu de Balma, qui arrive en troisième position, mais dans le but d'accéder en D2, pardon, les réserves ne peuvent pas accéder. En tout cas, la réserve d'Albi, de son côté, pointe à la 7e place avec...
On va pas avoir deux équipes en D2, quand même.
Hein. Avec 14 points. Non, ça on va pas. C'est pas pour cette année d'avoir une nouvelle équipe tarnaise en D2.
Non, malheureusement, pour le foot tarnais, parce que d'un peu de concurrence pourrait créer de l'émulation.
Voilà. Voilà. Ensuite, on va passer directement en Régional 3, parce que y a Mazamé qui a...
Ah oui, c'est le grand saut, là.
...revers une nouvelle fois. Ah oui, là, c'est... Mais là, on passe en masculin, par contre.
D'accord, oui, bien sûr.
Donc, on a quand même... On va faire une petite parenthèse sur la Régional 2 avec Mazamé qui n'y arrive clairement pas. Une nouvelle défaite très, très dure pour Mazamé. L'un des seuls matchs qui a été joué dans cette poule B de Régional 2. Et c'est un carton, le pays mazamétain a perdu 6 buts à 0 contre la réserve du Rodéo. Donc ça semble assez compliqué là pour le Rodéo. Après, le président du club m'avait annoncé quand même qu'ils allaient continuer à se battre jusqu'au bout, parce que pour l'instant ils n'ont pas encore connu la moindre victoire. Mais c'est vrai que voilà, ils ont un effectif assez restreint, ils ont perdu quelques cadres suite à la montée de l'année dernière et ils ont un peu de mal. Donc on espère que le coach va trouver la solution pour rattraper cette première victoire qui pourrait clairement être le déclic pour le pays mazamétain.
Oui, une équipe historique de la Vallée Torée.
Oui, qui est peut-être un peu mal placée géographiquement, c'est ce que me disait encore le président, que c'est que la situation géographique n'aide pas pour avoir affluence en joueurs.
D'accord, c'est un élément non négligeable et tu fais bien de nous en faire écho.
Voilà. Ensuite, donc du coup, comme je disais, on va aller en Régional 3. Donc là, c'est simple, dans la poule G, il y a eu un seul match qui a été joué, c'est la réserve d'Albi, qui fait un bon et un mauvais match en même temps, parce qu'ils font 0-0 contre Saint-Afrique. Donc c'est un bon résultat, parce que Saint-Afrique, c'est quand même une très grosse équipe, ils sont sur le podium, ils ont subi que 3 défaites depuis le début de la saison, donc c'est quand même joli pour la réserve d'Albi de faire ce résultat, Albi qui, comme je le disais la semaine dernière, est quand même en difficulté. Mais ce qui est dommage, c'est que du coup, Albi aurait pu en profiter pour s'extirper un peu des dernières places, mais avec ce match en avance, du coup. Mais c'est pas le cas, donc c'est pour ça que c'est un peu un mauvais résultat de ce point de vue-là. Même si, voilà, contre Saint-Afrique, c'était quand même intéressant de pouvoir ne pas perdre, en tout cas.
Tu nous l'avais dit, Saint-Afrique, c'est une équipe qui pèse dans ce championnat.
Voilà, c'est quand même l'une des références. Du championnat et qui peut, pourquoi pas, prétendre à la montée, mais bon, ça va être encore dur pour eux aussi.
Ok. Après.
Ensuite, voilà. Ensuite, voilà un départemental pour chercher. Pareil, un départemental, beaucoup, beaucoup de reports. On a quand même.
On était à combien à peu près un pourcentage de reports? 80%, 90% de reports des matchs?
Ah oui, c'est ça. Ouais. Entre 80 et 90, c'était quand même beaucoup de reports. Très peu de matchs qui ont été joués, même chez les jeunes, chez les féminines, partout.
Oui, même en D2 féminines, dans le groupe B d'Albi, sur 6 rencontres, il n'y en a qu'une qui a pu se jouer. C'est la rencontre entre Marseille et Metz avec une victoire 2-0 des Phocéennes. Après, toutes les autres rencontres disséminées dans tout l'Est de la France, enfin, même si. Albi ne se considère pas dans l'Est, mais on est dans la poule Est en termes footballistiques. Eh bien, toutes les rencontres ont été annulées pour intempéries.
Eh oui, c'est l'avantage de Marseille, on va dire que les intempéries sont un peu moins fréquentes sur le Vieux-Port.
Ça aurait quand même arrivé d'avoir de la neige en janvier des fois.
Donc ensuite, je vais parler d'un dernier match qui m'a attiré un peu mon regard. Donc on va aller directement en division, en départemental 1, pardon. Avec la confrontation entre Blanc et Briatek en poule B. Donc là aussi, une nouvelle fois, c'est le seul match qui s'est joué sur tout le championnat. Et Blanc avait clairement l'occasion de revenir à un petit point de Brassac avec ce match en avance. Mais surtout qu'il recevait Briatext qui est un peu plus en difficulté quand même. Mais on va dire que Briatext a joué les troubles faits en emportant 3-1 sur le terrain de Blanc. Donc Blanc grille une grosse cartouche et laisse potentiellement filer Brassac. Et Briatext, au contraire, se donne un peu d'air, on va dire. Je me suis trompé. Ensuite, dernière petite info, je dirais. Oui. C'est pour nos internautes fidèles. Je pense que certains vont se questionner à se demander pourquoi je ne parle pas de l'USLB féminine. Parce que, donc, comme je disais vendredi, c'est le début des
qualifications
pour les féminines. Et malheureusement, le match a été finalement reporté lui aussi.
D'accord, ben, on a bouclé la boucle, il n'y avait pas de foot féminin en Albigeois, à part la R1, l'équipe réserve Samuel Faux, qui a malheureusement perdu 3-1, comme tu disais en introduction, face au TEF, l'épouvantail de cette poule de R1. Et ben, ceux qui voulaient suivre le football féminin, ils en étaient pour l'argent.
C'était compliqué. Après, voilà, le coach de l'USLB féminin, j'ai parlé avec lui du coup vendredi. Ils avaient eux-mêmes demandé le report du match, et dans un premier temps, ça avait été refusé, parce qu'ils jouaient sur un terrain synthétique à Druel, et du coup, le synthétique ne serait pas impacté par la neige. Mais finalement, le match a quand même été reporté, donc ce n'est que partie remise pour l'USLB, et je pense que vendredi, du coup, je ferai un petit format sur l'USLB, avec l'interview du coach.
Ça sera le bienvenu.
Peut-être quelques autres surprises pour parler un peu des masculins aussi quand même.
Alors, en parlant de surprises, moi j'en ai une petite parce qu'avec notre site d'information aussi sportive, lemaxsport.com, on a eu une petite breaking news en foot. Manu, peux-tu nous mettre le jingle marseillaise ? Parce qu'il y a eu une bonne nouvelle qui est arrivée sur le bureau du président Espier à Cosselles ce lundi 4 février 2019. Marjorie Delonca, une des jeunes pousses SPT, va porter le maillot frappé du coq lors du prochain rassemblement de la sélection U18. Alors Marjorie Delonca, tu vas me dire, Nicolas, c'est qui, c'est quoi ? Eh bien actuellement, Marjorie Delonca, c'est la meilleure buteuse de l'équipe albigeoise, de la SPT Football Albigeois, qui évolue dans le groupe B de D2F avec 4 buts. Donc la jeune pousse rouge et jaune, 17 ans, a tapé, on va dire, dans l'œil de la sélectionneuse Gaëlle Dumas et va faire ses premiers pas en sélection. Donc une sélection qui fait la fierté du président Espier, qui nous déclarait: j'espère que Marjorie pourra continuer à évoluer en enchaînant les sélections et qu'elle donnera envie à d'autres albigeoises de mieux travailler pour l'imiter et aussi à d'autres de nous rejoindre. Quant à ses coachs, Patrice Garrigue et Clément Gallien, pour le premier, Patrice Garrigue, elle a fait une bonne préparation et c'est logiquement qu'elle est entrée dans le groupe D2F. Elle a de grandes qualités athlétiques et une certaine technicité. Elle a aussi su répondre, et je peux en témoigner puisqu'on a commenté les matchs présents, quand on lui a donné sa chance. Par contre, elle a un fort axe de progression sur l'aspect mental. Cette convocation est la juste suite des choses et arrive plutôt à point nommé pour la rebooster pour la fin de saison. Quant à son binôme Clément Gallien, il tient à souligner: c'est une fierté pour le club, le staff et Marjorie. C'est une récompense à juste titre pour le travail fourni dans sa catégorie d'âge. Il faut qu'elle sache savourer et apprécier cette expérience pour continuer à progresser. Nous savons tous qu'une sélection peut être éphémère. C'est à elle de faire le nécessaire pour y rester. Ce sera à la fois en brillant club et en travaillant pour le collectif qu'elle perdurera. Je lui souhaite bonne chance. Donc voilà pour les réactions après cette convocation surprise de la jeune Marjorie Delonca, qui l'année dernière évoluait en U19 ou des fois avec la réserve, et qui cette année s'est imposée comme une des cadres de l'équipe albigeoise. Une petite réaction, Nico, sur cette sélection?
Ah ben c'est totalement génial, c'est mérité pour elle, parce qu'elle est clairement un peu le poumon de la SPTT cette année. Et
un des poumons, parce qu'il faut pas trop la flatter, elle va avoir les chevilles qui enflent, elle pourra plus rentrer ses crampons après.
Non, je pense qu'elle saura rester humble. Après, ça peut être sympa, surtout avec la petite, une belle ascension quand même pour elle, et si elle continue à monter comme ça, pourquoi pas espérer une petite pièce pour la Coupe du Monde.
Oui, alors là, ça,
ça peut être un peu présomptueux, mais pourquoi
pas. Présomptueux, le chemin est plus long, hein, parce que entre la sélection U18 et la sélection A, il y a un grand fossé. Une joueuse des deux en sélection A, ça serait vraiment la carte sortie du chapeau de Corinne Diacre, parce que déjà les joueuses des 1 ont du mal à y accéder, et qui sont titulaires en club en sélection. Alors là, une joueuse des deux, ça serait la surprise du chef. Mais bon, on n'insulte pas l'avenir, on verra bien ce que ça donnera. Mais là, t'as pris la grosse cote quand même, Nico. Hein. Mais bon, pour l'aspecter, c'est quand même. Oui, t'as bien raison, c'est ce qui paye le plus. Donc pour l'aspecter, c'est quand même une belle reconnaissance, parce que 3 sélections en moins de mois, et au début de l'année, Ivy Michai, l'exemplaire, comme on l'appelle, la capitaine et l'ex-capitaine fidèle au rouge et jaune, et Laurie Besombe, la petite pépite rouge et jaune chippée au nez à la barbe du TFC, sont allées en équipe de France militaire. Là, Marjorie Delanca. En U18, on voit qu'à la SPT, on s'est formé et on s'est mettre en valeur ses joueuses.
C'est super. Franchement, là, sur le coup, c'est super. Ça prouve que faut miser, comme je disais du coup vendredi, pour l'essor du foot tarné, il faut miser sur les féminines.
Et ça prouve qu'il n'y a pas que Montauban et le TEF en foot occitan aussi.
Voilà.
Et Montpellier, parce qu'il y a aussi un petit club qui s'appelle la SPT qui essaye... d'exister au milieu de tous ces clubs.
Après, Montpellier reste la gamme au-dessus pour l'instant, mais peut-être que la SPTT pourra figurer dans les plus hauts dans quelques années.
Là, c'est pareil, le chemin est long, mais bon, pareil, on n'insultera pas l'avenir, et si c'est d'avenir le cas, on ne manquera pas de te le rappeler que tu avais eu le nez creux. Bon, on te remercie, Nico, pour cette chronique footpi, et on se donne rendez-vous vendredi.
À vendredi, au revoir à tous.
Allez. Après avoir écouté Nicolas Portillo et pour cette chronique footpi, on va clôturer ce Maxport avec de l'athlétisme. Alors, en athlétisme, l'info n'est pas tombée lundi. Comme pour la SPT, mais elle est tombée dimanche en fin après-midi. Célia Préron, après avoir porté le maillot de l'équipe de France la semaine dernière à Cardiff, lors du match international d'épreuves combinées, chose qu'on vous avait relatée dans le Maxport de mardi dernier, la jeune grouilletoise s'est adjugée le titre national du pentathlon en salle espoir U23 à Rennes. Célia Préron jouait de malchance un peu depuis 2016. C'était son dernier podium national dans les épreuves combinées. Mais avec de nombreuses 4e et 5e places, elle pensait que le bout du tunnel n'était pas encore arrivé. Mais non, la disette s'est finie ce week-end dans cette discipline en Bretagne, à Rennes. Car au bout d'une très belle compétition, la licenciée de l'éclat remporte un nouveau titre de championne de France U23. Une nouvelle breloque arrangée dans l'armoire au trophée après celle de la hauteur la saison passée. Alors... c'est un titre qui s'est dessiné grâce à un total de 4193 points qui lui permet en prime d'être la nouvelle détentrice du record d'Occitanie, toute catégorie confondue. Chapeau bas, madame. Et après, elle a aligné des performances assez honorables, 8,75 au 60 mètres haies, 1,73 au saut en hauteur, 10,74 au lancer du poids, un saut magique de 6 mètres à la longueur et de 13,69 aux 800 mètres, qui font de cet ensemble des performances assez dantesques qu'a réalisé la petite protégée de Brice Morel, le directeur sportif de l'éclat qu'on salue. Donc, pour clôturer, on va dire, sa saison d'hiver, Célia Préron va se rendre le 17 février 2019 au championnat de France élite en salle. Des résultats qu'on va suivre attentivement pour voir si cette jeune grouilletoise qui monte arrive de nouveau à renverser l'ordre établi. Sur ce Maxport touche à sa fin et sera réécoutable en podcast sur les réseaux sociaux et sur le www.lemag-sport.com ainsi qu'à 18h et 3h du matin sur les ondes de Radio Albigès 95.4, 104.2 et le www.radioalbigès.com. Merci à Manu pour la réalisation technique avec brio comme à son habitude, en remerciant aussi Didier Revellat et Arnaud Schmitt pour m'avoir accompagné dans le froid polaire pour vous faire vivre sur nos ondes la Fédérale 1 avec la réception de l'Annemezan par le Sporting Club Albigeois. Pour les autres, je vous donne rendez-vous vendredi à 16h pour toujours plus de sport et de nouvelles aventures. Allez, tenez-vous chaud et à des siasses.
cat is lost. Left with low batteries acting soft. For starters, I had beef with some vegetables. I go gazpacho on them like a tap dancer. Suckers caught running with them in ambulances. Advanced metal fans leaving big cracks. I ain't clearing them liners, leave them on wax. While in the West playing in the Cocoa Puffs, I'm still untouchable like Alfred Noble Grubb. Standing making hits, screaming hold them up. And go go, watching for that Chernobyl stuff. On girls' lips like lip gloss always. Shining like the lips on my SP all day. Game is sick, need a rescue the first day. I shit spinning your hat and your jersey.
I listen old school or wax. You can bring the drums and break it down.
Music please.
How many notes get the names this tune?
Phonetic form, we wanna grab a flip up the wax.
B-boy
or wax. Call me a predator
as I start
leaving underwater, underwater. Number one in my class,
I'm the one.
Phonetic form, we wanna grab a flip up the wax.
Roots are true.